Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. L'inconvénient, Togo et Curium. Au programme, j'ai le temps, alimentation et cerveau, n'avalez pas tout ce qu'on dit. Et des idées rafraîchissantes. Bonne écoute!
J'ai le temps, par Julie Mazieri, paru à l'été 2022 dans la revue L'Inconvénient. J'ai acheté un réveil matin, un tout petit truc rond en plastique noir avec un cadran analogique d'environ 7 cm de diamètre. Un machin brown. J'ai dû le payer une trentaine de dollars, pas plus. Vous n'imaginez pas la joie qu'il me procure. Parfois, je me demande comment j'ai pu faire sans lui pendant toutes ces années. Si ce n'était pas là une activité tout à fait déraisonnable, je crois que je pourrais passer des journées entières à regarder sa fine aiguille jaune faire le tour du cadran. La trotteuse. Quel joli nom! Par-dessus tout, j'aime son mouvement abrupt, heurté. J'ai souvent croisé, dans les salles de classe ou dans les gares, de ces horloges dont la trotteuse ne trotte pas et qui se plaît plutôt à glisser tout autour du cadran comme si de rien n'était. Cette aisance me laisse perplexe. À toute cette fluidité un peu fourbe, je préfère de loin le sautillement nerveux du mécanisme bon marché qui marque le passage d'une seconde à l'autre, donnant l'impression d'un infime effort, d'un imperceptible coup de collier. « Il faut y aller », semble dire ma brave trotteuse. Certains jours, je pourrais jurer qu'elle est fébrile, qu'elle palpite, ce qui lui vaut toute mon admiration. Vous commencez à penser « Elle va nous faire le coup de l'horloge. Tempus fugit. Elle va nous servir une allégorie du temps qui passe. » Pas du tout. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple. Je veux vous parler de ce nouveau réveil matin que je viens d'acheter. Voyez-vous, non seulement j'ai maintenant l'heure, mais j'ai aussi le temps. Il est juste là, sur mon bureau, posé sur une pile de livres, elle-même posée sur une pile de feuilles. Ce n'était pas mon premier choix, ou plutôt ma première tentative, devrais-je dire. Il y a une dizaine d'années, j'avais trouvé dans une brocante une ancienne horloge de bureau soviétique, une pendulette chromée munie d'un lourd socle en fonte noire. Ici encore, n'allez pas croire que j'essaie de broder une fable contemporaine. Je n'y peux rien. Cette horloge était soviétique. Et elle me plaisait bien. Slava. Il paraît que c'est une marque très connue, très robuste. Mais entre vous et moi, je ne connais absolument rien aux horloges, réveils et autres pendules. Je les aime, un point c'est tout. Le vendeur m'avait assuré qu'elle fonctionnait parfaitement, qu'il suffisait de la remonter. Formidable, m'étais-je dit en la soupesant. Elle pourra aussi servir de presse-papier. Le vendeur n'avait pas menti. L'horloge fonctionnait bel et bien. Elle fonctionnait tant et si bien qu'il était impossible de l'oublier, ne serait-ce qu'une seule seconde. Je n'ai d'ailleurs pu m'empêcher de rire en l'entendant pour la première fois. Son tic-tac était si incroyablement puissant. Je n'avais jamais entendu pareille chose. Un claquement sec et péremptoire. 3600 fois par heure. Impossible de rester dans la même pièce que cette vieille institutrice tyrannique. Pis encore, celle-ci me poursuivait dans toute la maison. Je fermais les portes, Mais là encore, je pouvais entendre sa scansion infernale. J'essayais de me convaincre que je finirais par m'y habituer. Avec le temps, on s'habitue à tout. Je me disais que cette horloge avait bien vécu quelque part avant de se retrouver chez moi. Posée sur une étagère ou sur un guéridon, elle avait bien tic-taqué entre d'autres murs. Elle avait rythmé la vie d'une famille ou les journées de travail d'un petit fonctionnaire ou, que sais-je encore, les longues nuits studieuses d'un jeune pétersbourgeois. Et je serais, moi, incapable d'admettre son tic-tac dans ma minuscule vie. Je manquais décidément de caractère. Au contraire, il me fallait saisir cette occasion. Ce serait là un magnifique exercice de tolérance. J'apprendrais à faire preuve de mansuétude et, à force de bienveillance, peut-être finirais-je même par aimer le défaut de cette horloge comme on s'attache aux imperfections de nos proches. D'ailleurs, ce n'était pas un défaut, mais une singularité, une extravagance. Et si l'amour ne venait pas, j'apprendrais à faire la sourde oreille. Et si la surdité ne suffisait pas, je lui tordrais son extraordinaire gosier de métal et je m'achèterais une montre comme tout le monde. Les montres. Il y a si longtemps que je n'en porte plus. Que s'est-il passé? À partir de l'âge de 7 ou 8 ans, j'apparais sur toutes les photos avec une montre au poignet. Un fin bracelet en cuir noir ou un truc en plastique blanc. Et plus tard, une Timex à quartz en inox. Je ne sais pas pourquoi les enfants portent des montres. Pourquoi mettent-ils de pareilles choses autour de leurs petits bras grêles? Quel besoin de savoir l'heure quand on vit au milieu des champs? Peut-être est-ce l'accessoire parfait pour jouer au grand? Les montres-bracelets, elles aussi, je les aimais excessivement. J'en prenais le plus grand soin, les retirant chaque fois que je devais me rendre à l'étable pour ne pas qu'elles en prennent odeur, m'affolant à la vue d'une légère décoloration ou d'une rayure sur le boîtier, m'interdisant même de me baigner si je ne trouvais personne digne de confiance pour garder mes précieuses montres de pacotille. Aujourd'hui, toute cette lubie demeure un grand mystère pour moi. Sans doute était-ce de la pure folie. Mais les enfants sont fous. Les enfants ne comprennent pas que le temps des horloges n'est qu'une convention. Il faut les voir chronométrer leur moindre course. De la porte jusqu'au sapin. Du sapin jusqu'à la boîte aux lettres. Et de la boîte aux lettres jusqu'au hangar. Lors de ces courses insensées, ils sont littéralement contre la montre. 100 fois, ils recommencent. Leur vie même en dépend. Ils calculent ensuite le temps qu'il leur faut pour vider le lave-vaisselle et mettre la table, combien de temps pour terminer leurs devoirs, combien de temps pour lire une page de roman. Ils veulent savoir ce genre de choses. Peu importe qu'ils ne retiennent rien de ce qu'ils ont lu et que leurs tâches soient bâclées, pourvu qu'ils puissent retourner le plus rapidement possible à leur ennui incurable et recommencer à attendre que quelque chose se passe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai de plus en plus souvent l'impression de me trouver dans une salle d'attente, sans toutefois savoir ce que j'attends. Cela n'est pas aussi désagréable qu'on pourrait le croire. Je suis assise et j'attends. Quelque chose va se produire. C'est inéluctable. Le moment venu, on va m'appeler et je vais me lever. Il y a des attentes formidables qui n'ont pas d'autre but que l'expérience de l'attente elle-même. Aucun espoir ne les commande. Aucune joie ni aucun soulagement ne viendra récompenser votre patience. Des attentes si formidables que vous ne cherchez même pas à tuer le temps. Celui-ci vous est parfaitement supportable. Cela m'est arrivé il y a quelques années. Pour plusieurs mauvaises raisons, je m'étais retrouvée dans les territoires du Nord-Ouest. C'était l'hiver et les journées ne duraient guère plus de 4 heures. Pour parfaire mon malheur, je détestais prodigieusement le travail pour lequel j'avais traversé tout le pays en voiture. J'habitais seule, dans un gîte, sur les rives du grand lac des Esclaves. Une immense maison sur pilotis, composée de 7 chambres identiquement laides, où s'échouaient parfois, pour une nuit ou deux, des voyageurs aussi misérables que moi, des marchands itinérants, de meubles, de poissons surgelés et d'à peu près tout et n'importe quoi, et quelques touristes japonais qui maudissaient le ciel de ne pas leur accorder les aurores boréales qu'ils étaient venus observer. Un jour, il me faudra raconter cette maison de fou postée au bord du lac gelé. Cette vie n'avait ni queue ni tête. Or, parmi toutes les tâches qui m'étaient confiées, l'une d'elles me plaisait. Toutes les 2 semaines, je devais me rendre dans un autre village nommé Fort Smith. Il me fallait alors conduire plus de 200 kilomètres sur l'unique route qui reliait les 2 communes. Il m'arrivait parfois de ne croiser aucune voiture pendant tout le trajet. De la neige et encore de la neige. Cette longue route avait pour particularité de traverser le parc national Wood Buffalo. Comme son nom l'indique, les bisons y étaient partout chez eux. Il n'y a pas d'argument contre un troupeau de bisons sur la route. C'est ainsi. Quel imbécile se mettrait à klaxonner d'impatience une 20aine de minotaures plantés au milieu d'une vaste plaine nordique? Il me suffisait d'attendre que l'on veuille bien me laisser passer. Mais visiblement, cette digue laineuse avait tout son temps. Ma foi, les pieds. Je ne pouvais m'empêcher de regarder leurs pieds. « De si petits pieds, me disais-je, sous de si gros corps. » De si petits sabots rivés au sol par le poids, par le froid, et qui ne semblaient absolument pas vouloir bouger. Dieu seul savait combien de temps j'allais rester là, à contempler ces bêtes offrant leur large front au vent, impassibles, comme attachés au piquet nietzschéen du moment. Quel fabuleux entre-soi! Ce que j'aurais donné pour me joindre à cette compagnie. Mais 100 fois, les bisons nous ont oubliés, mon Jeep et moi, stationnés quelques mètres plus loin. Tête basse et paupières mi-closes, ils ruminaient sans fin. Les bisons aussi ont leurs ennuis. Et moi, j'étais terriblement en retard. Mais cela n'avait aucune importance, car je n'avais pas mon mot à dire contre cet obstacle qui se dressait sur mon chemin. Pas un seul instant, je n'ai songé à faire demi-tour et à rentrer. J'étais ravi d'être bloqué par leur éternel présent. Puis la nuit est tombée et il m'a fallu allumer les phares de la voiture. Un bison a bougé, puis un autre. Et ils ont déménagé tout leur art pariétal sur le bas-côté. Je n'avais pas besoin d'un réveil matin. Non, je n'ai pas besoin d'être réveillé. Je voulais seulement savoir l'heure qu'il est. D'ailleurs, je ne me suis jamais donné la peine d'écouter sa sonnerie. Un jour, peut-être, par curiosité ou par désœuvrement, je la déclencherai, comme cela, sans raison particulière. Le temps qui passe, son écoulement et les diverses ruses que l'on s'évertue à inventer pour le retenir ou en triompher, ne m'intéresse pas tant que toute cette horlogerie que l'homme a amoureusement mise au point pour avoir l'heure juste. Je ne me lasse pas d'observer ce mécanisme merveilleux et stupide. Il me semble parfois y retrouver quelque chose du caractère irréfutable d'un troupeau d'herbivores sur la route. Permettez-moi cette légère sidération. Je ne sais pas m'émouvoir convenablement. Et tout semble si urgent. Mais moi, je suis si peu maître de ma petite horloge. Je suis cette dame polie qui dit « Parlons d'autre chose, si vous le voulez bien. » Parce qu'il est tard et qu'on a déjà trop parlé, que tout le monde a voulu avoir raison et que la soirée est ruinée de toute façon. Au fond, je ne sais que faire diversion. Et cette fois encore, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour supporter les ruminations historiques des uns et des autres et le bruit de notre temps. C'était « J'ai le temps », un texte de Julie Mazieri, paru à l'été 2022 dans la revue « L'Inconvénient ».
Alimentation et cerveau. N'avalez pas tout ce qu'on dit. Un texte de Louis Beurer, paru le 26 octobre 2021 dans Tout Go. On connaît déjà l'importance de l'alimentation sur la santé physique. Elle peut notamment permettre de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et d'autres maladies. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'alimentation a aussi des effets sur la santé du cerveau. Et non, il n'existe pas d'aliments miracles. Grâce au jingo, biloba, les pertes de mémoire et le manque d'attention sont choses du passé. Consommer du curcuma pour vaincre la maladie d'Alzheimer et le cancer. Adopter les baies de goji pour favoriser la santé de votre cœur et garder votre morale au beau fixe. Opter pour l'huile TCM, triglycéride à chaîne moyenne, et dites adieu à la maladie de Parkinson. Les affirmations comme ça sont légion. Avouez qu'on aimerait bien n'avoir qu'à intégrer des baies de goji dans nos smoothies et consommer une petite infusion de curcuma chaque soir pour que notre cerveau soit en santé. Malheureusement, aucun aliment, pas même un super aliment, ne peut nous offrir tous les nutriments dont notre corps et notre cerveau ont besoin pour bien fonctionner. On peut ajouter, si on le désire, certains de ces aliments ou suppléments dans notre alimentation. Attention à certains d'entre eux qui ont des contre-indications. Mais encore faut-il que cette dernière soit déjà équilibrée pour qu'il y ait des effets bénéfiques sur notre santé. Nourrir son cerveau à tout âge. L'alimentation est en effet cruciale pour la santé du cerveau. Avant même la naissance, les nutriments que reçoit le fœtus participent au bon développement de ses neurones. Chez l'adulte, des nutriments comme les acides gras polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6, sont indispensables à la mémorisation et à l'apprentissage. L'alimentation reste tout aussi importante pour la personne âgée. Les oméga-3 et la vitamine A protègent les cellules du cerveau et permettent un vieillissement plus harmonieux. L'idéal est donc d'avoir une alimentation équilibrée, diversifiée, riche en fruits et légumes, faible en gras saturés et adaptée à son âge et à sa santé. Des aliments bons pour le cœur et le cerveau. Il n'existe évidemment pas de régime miracle qui pourrait annuler les effets du temps. Toutefois, certaines approches alimentaires se sont montrées très efficaces pour garder le cœur jeune. Pourrait-il en être de même pour le cerveau? C'est en partant de cette hypothèse que le réputé régime méditerranéen et le régime DASH, une approche riche en végétaux et faible en sel pour stopper l'hypertension, ont été combinés pour mener à la création du régime MIND, M-I-N-D. Mediterranean-Intervention for Neurodegenerative Delay. Les résultats se sont avérés très encourageants. En plus de protéger la santé du cœur, le régime MIND a montré son efficacité pour stimuler les capacités cognitives comme la mémoire, l'attention, la résolution de problèmes, l'apprentissage, etc. Selon le niveau d'adhésion à ce mode d'alimentation, on note une baisse de 35 % à 50 % du risque d'être touché par la maladie d'Alzheimer. Une autre étude dévoile que les personnes qui suivent les recommandations de ce régime pourraient avoir un âge cérébral de 7 ans et demi de moins. De quoi donner envie de l'adopter sur le champ. Au menu du régime MIND. Quels sont les aliments MIND qui favorisent la bonne santé du cerveau? Les légumes verts, particulièrement ceux qui sont feuillus tels que le chou frisé, kale, les épinards, la roquette, les laitues. Les autres légumes, les petits fruits, les grains entiers, les lentilles, pois chiches, haricots rouges et autres légumineuses, le poisson, la volaille, les noix, l'huile d'olive. Et pour ce qui est de boire, le régime MIND encourage l'eau et les infusions, dont le thé vert, ainsi qu'un petit verre de vin par jour si désiré. Un mode de vie sain. Même si on ne suit pas un régime particulier, on peut tirer profit de divers petits changements qui permettent d'adopter de plus en plus d'aliments avantageux. On en vient ainsi à consommer moins de viande rouge et de desserts très sucrés, ainsi qu'à éviter les produits ultra-transformés. N'est-ce pas ce que le Guide alimentaire canadien nous invite à faire? L'alimentation n'est qu'un facteur parmi de nombreux autres pour aider l'esprit à se maintenir en santé. Avoir des interactions sociales et une vie stimulante et rester actif physiquement influence aussi grandement le rythme du vieillissement du cerveau. Alors, si bien manger aide à maintenir l'esprit en santé, bien manger en bonne compagnie aide encore plus. Bon appétit! Vous venez d'entendre « Alimentation et cerveau, n'avalez pas tout ce qu'on dit », un texte de Louis Beurer, paru le 26 octobre 2021 dans « To Go ».
Des idées rafraîchissantes. Un texte d'Alex Beausoleil, paru le 13 janvier 2023 dans le magazine Curium. Splish Splash. Un éclair de génie survient dans la douche. Une question de propreté? Non, plutôt de neurones. Les bonnes idées peuvent surgir à tout moment. Mais comment se fait-il que les meilleures jaillissent souvent lors de moments anodins, comme le savonnage de vos aisselles? Citation. Une percée créative est plus probable quand une personne effectue une tâche routinière qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Fin de citation, dit Éric Harvey Girard, chercheur en neurosciences à l'Université d'Ottawa. Y a-t-il un pilote à bord? Lorsque vous faites la vaisselle ou une promenade, vous êtes pratiquement sur le pilote automatique. Normal, ces activités sont relativement faciles, familières, et elles impliquent des mouvements mille fois répétés. Comme votre cerveau ne peut pas se déconnecter, il porte son attention ailleurs. Ça facilite le flux de pensées spontanées. En vagabondant, le cerveau active son état de veille. Il ne semble pas spécifiquement engagé, mais ne vous fiez pas aux apparences, une douzaine de régions s'activent en coulisses. Les parasites prennent le contrôle. Lorsque vous accomplissez une tâche qui mobilise votre attention, le lobe frontal de votre cerveau prend le dessus. Il impose un schéma de pensée cohérent et chasse les idées parasites. À l'inverse, lors d'une tâche passive nécessitant peu de concentration, votre lobe frontal laisse passer plus librement les idées parasites. C'est à ce moment que vous criez « Eureka !» L'art de perdre son temps. La créativité c'est le fait d'établir de nouvelles connexions. Nos habitudes numériques ont toutefois altéré notre pouvoir inventif. Dorénavant, les moindres temps libres sont consacrés à pitonner sur un cellulaire ou à jouer sur une console ou un ordinateur. La flânerie n'a plus la cote. Citation : En s'occupant de la sorte, on sursollicite les zones du lobe frontal impliquées dans l'attention et la prise de décision, dit Éric Harvey Girard. Notre cerveau n'a plus le temps de respirer. Fin de citation. Votre cerveau a pourtant besoin de ces périodes de repos. Selon le chercheur, ne rien faire n'est pas une perte de temps. C'est plutôt une manière de laisser à votre cerveau le temps de générer de nouvelles idées, de tester des hypothèses. Avoir une idée peut être comparée à une intervention chirurgicale. C'est une manœuvre qui demande de la précision au cerveau. La science le dit, vous gagnerez en créativité en perdant votre temps. Qu'attendez-vous pour retourner sous la douche, savonner l'arrière de vos genoux? Faites comme Darwin. Au 19e siècle, le biologiste Charles Darwin avait un horaire de travail très structuré dans lequel il se réservait du temps de vagabondage créatif. Le scientifique travaillait 2 heures le matin, puis il faisait une longue marche d'une heure ou deux. Suivait ensuite le dîner, une autre période de travail de 2 heures et une seconde promenade. Une approche très évoluée. C'était « Des idées rafraîchissantes », un texte d'Alex Beausoleil paru le 13 janvier 2023 dans le magazine Curium.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Robert Chartier et Jocelyne Langevin. À la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault. À la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.